exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour à tous, bienvenue sur JetFM. Nous sommes le 10 février 2117. Ce journal est présenté par des élèves de 3e D du Collège Saint-Laurent.
Aujourd'hui, des nouvelles exceptionnelles sont au rendez-vous. Tout d'abord, nous reviendrons sur la manifestation des chômeurs. Nous passerons ensuite à l'invention d'un médicament miracle. Il sera aussi question de l'inauguration de la première ville sur Mars. Et comme d'habitude, la rubrique mode, sport, la météo et le quiz du jour.
À côté de nous, Jérémy, journaliste politique. Bonjour Jérémy. Vous avez été enquêté sur les manifestants.
Bonjour à tous. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique et plus précisément du chômage. Comme vous le savez, le niveau du chômage a atteint un nouveau record. Actuellement, c'est 10 millions de personnes qui sont touchées à cause de ces robots qui ont remplacé la plupart des actifs. Cette crise a provoqué la colère des chômeurs dans de nombreuses villes. Nous avons été à Nantes, constater l'ampleur de la manifestation. Nous avons pu observer la force des manifestants contre les CRS. Nous avons eu aussi l'occasion d'interviewer un robot travailleur.
Nous sommes à la DCNS, grand groupe industriel français, spécialisé dans l'industrie navale militaire. Je suis avec un des robots salariés, Robot 2117. Bonjour Robot 2117, pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Donc êtes-vous intelligent et autonome?
Oui, nous sommes intelligents. Autonome. Nous pouvons fonctionner tout seul 24 heures sur 24.
D'accord, mais êtes-vous intelligent? Êtes-vous plus intelligent qu'un humain?
Oui, nous sommes plus intelligents que les humains, car nous sommes dotés d'une puce électronique qui nous commande. Donc on fait tout ce qu'on nous demande sans erreur.
C'est bien, mais aimez-vous travailler?
Nous adorons travailler. Nous ne savons faire que ça. En plus, nous sommes jamais fatigués, donc pas de repos, pas vacances, le dimanche au boulot.
Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation contre les robots?
Cela ne sert à rien de manifester, car on fait tout le travail. Ils ne sont jamais contents, car quand ils travaillent, ils en ont marre. Et quand ils sont au chômage, ils en ont marre.
Merci Robot 2117 pour ces informations précieuses. Bonjour, que pensez-vous de cette manifestation?
Je suis entièrement d'accord avec cette manifestation car les robots prennent notre travail. À cause d'eux, il y a 10 millions de chômeurs.
Mais voulez-vous arrêter les robots?
Oui, je veux tous les supprimer.
Mais pensez-vous que cela va résoudre tous les problèmes sur le travail?
Oui, tout cela sera résolu car les robots prennent tous nos emplois. Certes, il y aura toujours des chômeurs, mais 10 fois moins. Ces robots prennent 80% du travail.
Merci d'avoir répondu aux questions.
Comme vous l'avez constaté, l'ambiance est très tendue. Nous espérons que le président de la République saura prendre en compte les remarques de Madame Trébon et des manifestants en colère.
Bonjour, bienvenue dans la rubrique Science et Culture. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau médicament qui guérit toutes les maladies, qui est extraordinaire. Il est miraculeux. Et c'est pour cela que je vais maintenant faire un micro-trottoir pour recueillir l'avis de chacun. Bonjour, madame. Bonjour. Que pensez-vous de ce nouveau médicament qui révolutionne tout le monde ?
Ce médicament a changé ma vie. À présent, des personnes âgées, des bébés et même des adultes peuvent être soignés en toute sécurité.
Merci. Et vous, madame, qu'en pensez-vous ?
Oui, ce médicament est fabuleux. Il a sauvé la vie de mon enfant, vous imaginez ? La vie de sa vie, quand même, hein ?
Merci de votre témoignage. Je vais maintenant me diriger vers la pharmacie pour interroger le pharmacien. Bonjour, madame la pharmacienne. Que pensez-vous de ce nouveau médicament qui soigne tout ?
Ce médicament a détruit ma vie. À cause de cette invention, je n'ai plus de boulot. Mon travail ne sert plus à rien. Je n'ai plus d'argent.
Oui, mais pensez à toutes ces vies que ce médicament aura pu sauver.
Déjà que les robots prennent notre travail. En plus de ça, il n'y a plus de malades. Je ne peux plus travailler. Maintenant, laissez-moi tranquille.
Comme vous pouvez le voir, tout le monde n'est pas du même avis. Il y en a des pour et des contre.
En effet, ce médicament est incroyable. Il y a 100 ans, on ne pensait pas que ça pouvait exister. D'ailleurs, nous allons écouter une archive d'une interview d'un bénévole du Téléthon.
Bonjour à tous, bienvenue en ce 15 mai 2117. Au cours du siècle dernier, la science a énormément progressé. En effet, à présent, beaucoup de malades peuvent être sauvés. Pour revenir sur toutes ces belles évolutions, nous sommes en direct avec Madame Carré, bénévole au Téléthon, qui a bien voulu se joindre à nous afin de répondre à nos questions. Bonjour Madame Carré.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bien sûr. Il y a 10 ans maintenant, je partais en retraite. Je suis bien une grand-mère. Après 36 ans d'enseignement de sciences de la vie et de la terre, en collège et en lycée.
À quoi sert le Téléthon ?
Alors, le Téléthon est une organisation qui permet de faire une collecte nationale pour soutenir les malades atteints de maladies neuromusculaires, qui sont des maladies génétiques. Et la collecte se fait maintenant aussi pour les maladies rares.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rejoindre cette association ?
Ce qui m'a donné envie, c'est à la fois d'avoir une retraite qui est un peu comblée, parce que sinon je m'ennuie un peu. Parce qu'en fait, je suis équipière scolaire au sein de la coordination 44 Nord. Donc je me suis dit, bon, finalement, continuer en faisant de l'enseignement. Et puis j'ai toujours été très sensibilisée aux problèmes de la biologie. J'aime beaucoup parler de l'ADN. Et puis j'aime bien tout ce qui est universel, tout ce qui est le contact avec les personnes, quoi.
Êtes-vous fière de votre investissement pour le Téléthon ?
Alors c'est toujours une question difficile parce que ça me touche, quoi. Donc ben oui, je suis fière parce que je suis sûre que chaque mot, chaque action, elle aura un débouché positif pour les personnes qui ont besoin d'un soutien, alors au niveau de la recherche pour trouver des médicaments, mais aussi un soutien, pour la vie quotidienne. Et en fait, c'est surtout Laurence Thénault-Herman, qui est la présidente de l'association, qui aime bien en fait nous dire que chacun qui participe au Téléthon doit être fier.
Quel médicament ou traitement est en cours de développement ?
Alors ça, c'est une question qui est intéressante et importante aussi, parce qu'en fait, il y a 30 ans, il a été découvert un des gènes qui est un petit peu embêtant parce qu'il ne travaille pas correctement et il empêche en fait une molécule, la dystrophine, d'être au niveau des muscles et de pouvoir permettre la contraction musculaire. Donc ça fait 30 ans que le gène a été identifié. Et identifier le gène, c'est forcément bien parce qu'on a la cause de la maladie, mais après il y a tout le développement de comment est-ce qu'on fait pour trouver un traitement. Alors il y a eu un pari fait par les médecins qui ont dit on va pouvoir utiliser finalement un virus dans lequel on va mettre le gène sain, le bon gène, et on va envoyer ça dans l'organisme de la personne malade. Alors c'est pas si... L'idée est simple, mais ça ne fait que 10 ans que cette thérapie génique a abouti à des résultats vraiment intéressants. C'est toujours à l'essai.
Les nouvelles maladies ont-elles été découvertes récemment ?
Alors, on pense que on en trouve une maladie génétique, une par mois. C'est une estimation. Parce qu'entre 6 000 et 8 000 maladies qu'on estime, entre 6 000 et 8 000, il y a encore 2 000 maladies. Donc on ne connaît peut-être pas encore le nom. Et il y a des patients, on a des malades qui attendent toujours qu'on leur dise c'est telle maladie, c'est tel gène qui est déficient et peut-être qu'il y a une solution pour vous.
L'État aide-t-il beaucoup à financer les recherches médicales ?
Alors oui, de plus en plus. Alors je voulais prendre qu'un seul exemple, parce que comme il y a eu une explosion de d'essais, je prends un seul exemple. C'est la création de ce qu'on appelle nous une plateforme, c'est-à-dire un endroit, un laboratoire où il y a plusieurs machines, plusieurs outils et plusieurs personnes qui peuvent venir de France, plusieurs chercheurs, même du monde entier, qui viennent un peu travailler ensemble. Et cette plateforme, c'est le premier laboratoire industriel qui va mettre au point pour l'avenir des médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire pour toutes les maladies rares. Et pour cette plateforme qui s'appelle Hyposkésie, l'AFM Téléthon aura donné presque 38 millions d'euros pour ce laboratoire et l'État aura fourni 84 millions d'euros, donc le double. Et c'est le premier, c'est la première chose là qui vient d'apparaître et qui est hyper importante pour nos malades.
Comme nous pouvons le voir, nous n'imaginons pas que dans 100 ans, il y aurait tous ces nouveaux médicaments. Nous sommes toujours dans la rubrique « Sciences et technologies » et aujourd'hui, nous allons parler du nouveau robot appelé U-Bot. Donc c'est le mélange d'un humain et d'un robot. Donc il a donc les capacités d'un humain. Pour ce fait, nous allons accueillir Madame Utrin, une scientifique à Paris qui s'occupe de ce projet. Monsieur Hubert, un agriculteur, n'a pas de réel avis sur ce projet. Madame Forêt est contre cette nouveauté. Que pensez-vous de cette invention ? Madame Utrin, je vous en prie.
Bonjour à tous. Ce que je pense de cette invention, c'est que cette invention serait bénéfique pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite. Ça pourrait les aider dans leur tâches ménagères. Pour les personnes qui manquent de compagnie, ça pourrait leur donner de la joie.
Je suis pas d'accord.
Déjà que le prix est trop élevé. Je trouve qu'il y aura trop d'amitié entre les humains et les robots. Et puis les gens ne font plus rien chez eux. On prend les robots pour des esclaves.
On les prend pas pour des esclaves. Les robots, ça sert à ça. Enfin, on les a créés pour ça.
Vous ne craignez pas qu'il y ait une révolte ?
Bah, il n'y aura pas de révolte, c'est des robots. Enfin, ils sont pas créés pour révolter. Enfin, ils sont créés exprès, donc je vois pas pourquoi ils se révolteraient.
Parce qu'ils sont traités comme des esclaves.
Ils sont pas traités comme des esclaves.
Je trouve que si. Ils font tout à la maison.
Et ben, s'ils font tout comme ça, les personnes, elles pourraient aller faire beaucoup plus de sorties. Ça leur laisserait du temps libre pour eux.
Et puis moi, agriculteur, voilà. Ça m'aide dans mon travail. Car moi, j'ai une exploitation à faire tourner. Et je suis tout seul. Donc, eux, les U-Bots, pour m'aider, pendant que moi j'ai la bombe au champ, eux ils seront à la traite. Voilà quoi. Et puis même s'il est un peu cher, il pourra être financé sur plusieurs années et puis ça m'évitera d'acheter plus de matériel agricole qui lui coûte aussi cher.
Oui, mais on l'a dit au début de l'émission, les robots ont déjà pris nos travails, ils ont le dessus sur les humains. Vous n'avez pas peur qu'ils prennent votre travail et que vous vous retrouvez au chômage ?
Mais ils ne prennent pas notre travail. Parce que là, moi, comme je l'expliquais, je suis tout seul. Ils sont là pour m'aider. Ils sont pas là pour piquer mon travail. Car sinon, tu vois, ce que je fais en une journée avec eux, je peux le faire en une demi-journée. Voilà.
Nous pouvons voir que ce débat est très agité. Nous pouvons donc constater que cette réflexion reste sans fin. Nous n'avons donc pas de réponse concrète sur ce sujet. Nous verrons à la longue comment cette invention a évolué. Nous nous quittons donc avec un morceau de Marshmallow qui se nomme « Alone ».
Bonjour. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour nous retrouver pour vous parler de la conquête spatiale. Comme vous le savez, la première ville sur Mars a été inaugurée ce matin. Toutes les capitales de chaque pays ont été contribuées à ce projet qui sauvera toute la surpopulation car nous sommes actuellement 16 milliards d'habitants sur notre planète. Ce nom vient d'être dit il y a une minute, il s'appellera Olympe. Il vient de la mythologie grecque, ce nom est une montagne qui est sur Mars. Et de plus, ce nom inspire un petit peu la victoire.
Olympe nous permettra de résoudre en partie le problème du chômage en France. Comme il a été rappelé au début de l'émission, plus de 22% de la population en France est en recherche d'emploi. Nous espérons que cela résoudra le problème de la nourriture, car celle-ci est devenue beaucoup plus chère et difficile à produire, à cause du manque de place dû à la surpopulation.
C'est la première ville sur une autre planète, une ville développée qui permettra dans une centaine d'années d'accueillir 200 millions d'habitants. Espérons que ce soit la première, mais pas la dernière. C'est un événement incroyable, car il y a 100 ans, on ne croyait pas que ce serait possible. D'ailleurs, on a retrouvé une archive de 2017 d'une interview du grand scientifique Nicolas Mangold, qui était directeur de recherche au CNRS, le laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes. À cette époque, on était encore loin d'imaginer pouvoir vivre sur Mars.
Bonjour, nous sommes des étudiants du collège Saint-Laurent à Blain. Aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial venant de Nantes, qui est le directeur de recherche au CNRS du laboratoire planétologie et de géodynamique. Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci, bonjour à vous.
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je m'appelle Nicolas Mangold, je suis géologue, c'est-à-dire que j'étudie les roches, les reliefs de la Terre et des planètes. Et donc, géologue et planétologue. Et je travaille au laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes, qui est un laboratoire de l'Université de Nantes et du CNRS.
Comment avez-vous été associé à cette mission avec la NASA ?
Alors, comme je disais, j'ai été associé avec cette mission par mes collègues toulousains. Donc, les collègues toulousains qui travaillent notamment au CNES ont conçu cet instrument, ChemCam, qui est un instrument qui contient en fait trois instruments. C'est à la fois un laser, un imageur et un spectromètre. Et la partie imageur et laser est conçue en France et a été construite en France par ses collègues. Et donc mon rôle là-dessus est surtout d'étudier, de comprendre les données qu'on reçoit de cet instrument.
Comment ce rover fonctionne-t-il ?
Alors le rover, il fonctionne avec plusieurs types d'énergie. Avant tout, il utilise l'énergie qui est au plutonium. Alors plutonium, ça vous dit peut-être rien. Si je vous dis uranium, par exemple, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein, une partie de certains isotopes, alors c'est des classes d'uranium, qui sont radioactifs. Hein. Donc quand ils sont radioactifs, ils dégagent de la chaleur. Donc le plutonium, il a cette particularité de dégager de la chaleur. Et avec cette chaleur, il est fait à la fois de la chaleur pour le rover, mais aussi de l'électricité. Et c'est cette électricité qui alimente le rover. Et donc, la grosse différence avec les rovers précédents, ils étaient tous à l'énergie solaire. Vous avez déjà vu ces petites surfaces grises, exactement comme des panneaux solaires autour des rovers. Curiosity, il n'y en a pas. Si vous regardez les images, il est blanc. Il n'y a pas de panneaux solaires. En fait, il y a une raison très claire, c'est qu'il y a besoin de tellement d'énergie que des panneaux solaires ne sont pas suffisants. Imaginez, vous auriez besoin de panneaux solaires de la taille de votre classe, de chaque côté du rover. Donc, évidemment, on ne peut pas trop se transporter sur Mars avec ça autour. Donc, il a fallu penser à autre chose. Et cette énergie au plutonium, en général, elle est utilisée pour les sondes qui vont explorer loin dans le système solaire. Vers Titan, par exemple, la sonde Cassini qui rentre dans Saturne bientôt, là, elle est alimentée par le même système d'énergie. Parce que ces énergies qui sont utilisées loin du Soleil. Et donc cette énergie-là a été utilisée sur Mars pour pouvoir produire plus d'énergie que ce que peuvent faire des rayons, des panneaux solaires.
Qu'avez-vous découvert sur Mars ?
Alors on a découvert beaucoup de choses ces dernières années sur Mars. Pour prendre quelques exemples, on a travaillé sur des données orbitales qui nous montraient que certains endroits par lesquels on allait passer avec Curiosity, montraient des strates sédimentaires. On soupçonnait que c'était des strates sédimentaires. Vous savez ce que c'est, des roches sédimentaires, des strates sédimentaires ? C'est des sédiments qui se déposent, qui s'indurent et qui font des roches. Ces sédiments, ils peuvent être de différentes compositions. Ça peut être des calcaires, par exemple, quand c'est des précipitants chimiques. Et puis quand c'est des dépôts, ça peut être des roches qui finissent en grès ou en conglomérat. Les grès ou des conglomérats, c'est par exemple déposé dans les rivières. Et puis quand c'est très très fin, c'est des limons. C'est très fin, ça devient... Le long de la Loire, on a des limons, ça devient plus fin. Et au fond des lacs, c'est encore plus fin. On est dernier, on dit des matériaux de taille argileuse. C'est extrêmement fin. En général, c'est très lisse. Quand vous allez à certains endroits le long de la plage, vous en trouvez des argiles. C'est la partie la plus fine qui est transportée. Et donc ça se sédimente au fond des lacs. Donc ce qui nous intéressait, d'aller voir ces roches sédimentaires et de comprendre comment elles sont formées. Et on a observé qu'en fait, on a trouvé trois types de roches. Les conglomérats qui sont avec des gros galets, comme on voit au fond des rivières. Des limons un petit peu plus fins et des roches extrêmement fines qu'on peut toucher. Si on pouvait toucher à la main, on ne sentirait pas les grains tellement ils sont fins. Ça, c'est typique de ce qui est déposé au fond des lacs. Et donc, le fait d'observer les trois nous a montré qu'on avait à la fois des systèmes de rivières et un système de lacs qui était à la surface de Mars. Mais alors, pas aujourd'hui, hein, c'est il y a très longtemps. C'est des roches sédimentaires qui sont complètement cimentées et qui sont très vieilles, qui ont plus de 3 milliards d'années. Donc ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a 3 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Et donc ça, c'est le rover qui l'a démontré. C'était déjà connu avant, mais on ne l'avait jamais vu sur place et on n'avait jamais pu confirmer ça sur place. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est la durée de temps. On ne sait pas si c'était des petits lacs provisoires, si ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire quelques centaines d'années. On ne sait pas si ça a duré des millions d'années. Dans quel cas, s'il y a des millions d'années, on peut se dire que le climat était vraiment différent d'aujourd'hui.
Pensez-vous qu'un jour, nous pourrons vivre sur cette planète ?
Vivre sur Mars, c'est encore autre chose. Vivre sur la Lune, c'est compliqué, mais c'est pas très loin de la Terre. On peut revenir de la Lune en 2 jours, hein, en sonde spatiale. Sur Mars, on ne peut pas en revenir en 2 jours, il faudrait 6 mois. Donc quand il y a un problème sur Mars, le problème, il faut le régler là-bas. Il ne peut pas se régler en faisant un aller-retour sur Terre. Ou alors, il faut vraiment être sûr qu'on peut avoir le temps et qu'on peut envoyer quelque chose jusqu'à Mars. Donc vivre sur Mars, c'est compliqué parce que c'est loin et que donc il faut tout ramener pour être sûr d'être autonome. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Ensuite, il faut 6 mois pour y aller. Donc si on veut y aller pour pouvoir revenir, il faut à peu près 2 ans, tout compris, parce que Mars et la Terre, ça tourne, donc on ne les a pas toujours de manière favorable pour aller se promener en sonde spatiale là-bas. Hein. Ce n'est pas juste 6 mois, c'est à peu près 2 ans. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, pour y rester de manière définitive ou longue, c'est encore une autre étape. C'est que non seulement il faut être autonome, mais en plus, il faut s'organiser pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la nourriture, de l'eau, de l'oxygène. L'atmosphère martienne, vous savez de quoi il est composé ? Des gaz carboniques, tout à fait, dioxyde de carbone. Gaz carbonique, c'est ce qu'on expire. Donc, pour respirer, c'est mort. Ce n'est pas ça qu'on va respirer. Alors, le problème, c'est ça. Donc, la prochaine sonde spatiale américaine qui va partir, qui s'appelle le rover 2020, il n'y a pas encore de petits noms comme Curiosity. Ce rover 2020, il a des instruments à bord qui vont analyser, comme Curiosity, les roches pour l'aspect vraiment scientifique. Mais il a aussi un instrument très important qui s'appelle MOXIE. MOXIE est le premier instrument qui va essayer d'extraire l'oxygène de l'atmosphère. Pourquoi ? Pour préparer la venue des astronautes un jour. Donc sur chaque mission, il y a un petit instrument qui est comme ça, est conçu pour pouvoir aider à ce qu'un jour, le jour où on envoie l'homme, et on ait toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire vivre là-bas. Donc extraire l'oxygène, c'est déjà le degré zéro pour l'astronaute, c'est d'arriver là-bas et de pouvoir faire son oxygène. D'accord ? Ça, c'est déjà extrêmement important, parce que sinon, on ne peut pas respirer. D'accord ? Ensuite, il y a tout le problème de l'eau. Donc d'aller dans des endroits où il y a de l'eau, par exemple sous forme de glace, qu'on puisse faire fondre, pour avoir de l'eau liquide, bah, ça c'est intéressant, ça nous, le géologue, on peut donner des endroits. On a d'ailleurs participé à des premières sélections de sites d'atterrissage potentiels pour l'homme sur Mars, sans savoir s'il va vraiment y atterrir, mais c'est un petit peu un test. C'est pour voir est-ce que potentiellement il y a des endroits où on puisse survivre, où on a tout à portée de main. Donc ça commence à s'organiser autour de l'homme sur Mars, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est la préparation. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour, pas, pour vivre là-bas et surtout pas, voilà, être autonome et avoir tout sous la main pour ne pas avoir besoin de retourner sur Terre tout de suite.
Avez-vous d'autres projets dans le futur ?
Ben, les autres projets dans le futur, je vous en ai parlé de quelques-uns. ExoMars, la mission européenne. Le rover 2020 de la NASA. Je peux vous détailler ce que fait le rover 2020 de la NASA. Puisqu'on a un instrument qui va partir exactement comme ChemCam. C'est l'instrument qui fait de la chimie à bord de Curiosity. On a un instrument similaire qui s'appelle SuperCam qui va partir avec le rover 2020 et qui est aussi construit en grande partie en France, à Toulouse. Et cet instrument est plus complexe que ChemCam, c'est-à-dire que ChemCam lui analyse la chimie. En fait, ChemCam, ce qui est marrant, c'est qu'il tire au laser. Donc quand on travaille avec le rover Curiosity, en fait, on choisit les roches et on tire au laser dessus. Et le tir au laser nous permet d'avoir la chimie parce que le laser détruit la roche, ça fait un pulse de lumière et cette lumière est analysée et on peut en déduire la chimie de la roche. Mais en plus de ça, on va avoir deux autres instruments associés qui vont nous dire la composition de la roche, la composition minéralogique, les minéraux, avec ce qu'on appelle la spectrométrie Raman et infrarouge. C'est des choses que vous ne connaissez pas encore à votre âge, mais c'est de la spectrométrie et ça nous permettra d'avoir la minéralogie. Et donc d'avoir la chimie et la minéralogie. Hein, la minéralogie, c'est tous les différents minéraux qu'on peut avoir, l'olivine, les pyroxènes qu'on a dans les basaltes, les argiles et minéraux argileux qu'on a dans les roches hydratées. Tout ça, c'est extrêmement important pour comprendre la roche. Et donc cet instrument SuperCam, c'est sur quoi on travaille en ce moment. Moi, en tant que géologue, pas tant sur l'instrument lui-même, c'est pas moi qui construis l'instrument du tout. Par contre, je peux donner des conseils et je peux essayer de préparer à la mission. Donc bientôt, on a un début un meeting pour préparer la mission 2020. On va se réunir pour essayer d'organiser comment on fait fonctionner le rover par rapport au Curiosity. On fonctionne tous les jours avec le rover Curiosity. Ça nous prend une partie de la soirée parce que c'est en horaire américain. Et on va savoir, pour le rover 2020, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être différent. On va un petit peu commencer à organiser. Donc c'est en 2020, on est 4 ans avant et on commence déjà à organiser ces choses-là. Ça vient vite.
Et pour finir, dans 100 ans, pensez-vous qu'il y aura d'autres grandes avancées en astronomie ?
Il y aura toujours de grandes avancées en astronomie parce que les techniques avancent. En ce moment, ce qu'il y a de plus frappant, c'est la découverte d'exoplanètes. Il y en a des centaines. Les exoplanètes, ce sont les planètes qui gravitent autour d'autres étoiles. On se doutait qu'elles existaient. Quand j'étais gamin, il y avait des spéculations sur combien il y avait de planètes, sur est-ce que toutes les étoiles en avaient. Maintenant, on le sait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aussi que ces planètes sont organisées différemment du système solaire. Donc on est en train de complètement reconstruire les modèles de formation des systèmes solaires, des systèmes d'autres étoiles, stellaires en général, parce qu'on se rend compte qu'ils sont organisés complètement différemment les uns des autres. Donc on est en train de revoir tout. Et puis ces planètes qui sont autour d'autres soleils, on ne sait pas s'il y a la vie ou pas. Il y en a peut-être où il y a de la vie. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. On n'a pas découverte, mais ça, c'est une découverte qui est concrète, qui est possible à partir du moment où ces exoplanètes, on pourra avoir, pas forcément des images, mais au moins des spectres. Vous savez, les spectres, c'est un peu la lumière qui nous permet d'analyser la composition à la surface de l'atmosphère ou de ce que contient l'atmosphère. Donc à partir de là, on va commencer à pouvoir réfléchir à ces exoplanètes, même si on ne pourra pas y accéder comme on peut le faire sur Mars. Ça complétera un petit peu notre vision de l'astronomie. Et puis, avec les techniques qui avancent, de toute façon, il est clair qu'on aura encore beaucoup d'avancées techniques dans les 100 prochaines années et beaucoup d'avancées scientifiques qui suivront.
Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique de la mode, présentée par Julie Rialin et moi-même.
Aujourd'hui, une chronique sur les anciennes modes est prévue. En exclusivité, nous vous dévoilerons des archives inédites d'il y a 100 ans.
Pour finir, nous aurons la chance d'interviewer la créatrice de la combinaison rafraîchissante, Béatrice Prior. Et on commence tout de suite par ses archives inédites de 2017.
Que pensez-vous de la mode d'aujourd'hui ?
Alors, je pense que c'est toujours un peu la même chose, sauf que ça se renouvelle. Par exemple, en ce moment, c'est plus tout ce qui est des années 80 qui reviennent à la mode, les voitures, même les vêtements, les pantalons larges, etc.
La mode, c'est bien, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment leur personnalité ou alors qui ont peur de ce que vont penser les autres, du jugement des autres personnes en fonction de ce qu'eux, ils vont acheter.
On trouve que la mode d'aujourd'hui, c'est super cher pour ce que c'est et que tout le monde suive en fonction des personnes qui s'habillent bien et les populaires.
La mode par rapport à les vêtements, elle s'améliore d'année en année en fonction des générations. Enfin, c'est plus moderne qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple.
Être à la mode en 2017, c'est surtout suivre maintenant les mannequins. Genre tout ce qui est dans les magazines. Maintenant, il n'y a plus personne qui s'habille comme il devrait être habillé. Maintenant, les critères d'aujourd'hui, c'est être mince et être en mauvaise santé. On ne pense plus vraiment au bonheur de la personne. C'est aussi surtout les critères de la télé, des trucs comme ça, quoi.
Moi, je pense que la mode, c'est chacun ses goûts. Chacun doit s'habiller comme il le souhaite. Et il ne faudrait pas être jugé être jugé et juger les autres.
Plus ça va, plus les pantalons sont de plus en plus troués, donc il y a de moins en moins de tissus, mais ils sont de plus en plus chers.
Quelle est la tendance pour vous aujourd'hui ?
Je trouve que les femmes, elles sont beaucoup moins féminines qu'avant. Elles portent plus de baskets à la place de talons. Les jeans, c'est pareil, elles mettent beaucoup moins de robes ou de jupes.
Aujourd'hui, je trouve que les jeunes s'habillent tous de la même façon. Mais par contre, il n'y a pas de jugement de fait sur les apparences.
Comment imaginez-vous la mode de demain ?
Je pense que ça sera des vêtements unicolores et juste avec quelques bandes de couleurs bleu, jaune.
On sera habillé comme dans les films de science-fiction.
Comme vous le voyez, ils n'avaient pas totalement raison. Nous ne sommes pas habillés comme dans les films de science-fiction. Mais ils ont aussi raison sur certaines de leurs hypothèses, car maintenant, nous avons nos propres styles et chacun peut s'assumer comme il est. À présent, nous allons pouvoir accueillir Madame Béatrice Prior sur notre antenne. Bonjour et bienvenue à vous. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs ?
Bonjour, je m'appelle Béatrice Prior, j'ai 32 ans et je suis la créatrice de la combinaison rafraîchissante. Elle consiste à rafraîchir le corps quand la température est en augmentation. La combinaison se met en marche automatiquement à la température demandée. Cette combinaison est en plus écologique car elle se recharge grâce au soleil.
Comment cette invention vous est-elle venue ?
Nous avons eu l'idée de créer cette merveille tout simplement à cause du réchauffement climatique qui augmente chaque jour et qui devient très dur à supporter pour de nombreuses personnes.
Depuis combien de temps la combinaison rafraîchissante existe-t-elle ?
Elle existe déjà depuis un an et elle s'est commercialisée au début de 2016.
Pensez-vous que les auditeurs doivent acheter cette combinaison ?
Oui, je pense que les auditeurs doivent acheter cette combinaison car elle est très pratique en cas de chaleur et elle est révolutionnaire. Et à partir du 10 mai jusqu'au 1er juillet, deux combinaisons achetées et la troisième est à moitié prix. Elle se trouve bien sûr dans tous les magasins de nouvelles technologies.
Merci de nous avoir consacré du temps et d'avoir répondu à toutes nos questions.
De rien, merci à vous.
Et tout de suite, une page de pub.
Marre des trajets coûteux ? Marre des trajets de longue durée ? Marre de ne pas pouvoir avoir votre petite amie à vos côtés ? C'est désormais fini.
Ah bon ? Mais c'est génial ! Comment peut-on faire cela ?
Grâce à un casque virtuel voyageur qui vous permettra de voyager où vous voulez et quand vous voulez, en restant dans votre canapé bien sûr. Maintenant, direction la Chine.
Oh ! Mais c'est la muraille de Chine ! C'est magnifique ! On s'y croirait vraiment.
Désormais, direction le Brésil.
Oh là là, mais nous sommes au grand carnaval.
A cidade de Cayena, vizinha do estado do Amapá, tem aproximadamente 25 mil brasileiros.
Et pour finir, allons en Égypte.
Les pyramides, elles sont là devant moi. Oh, j'y crois pas, c'est incroyable. C'est comme si on y était.
المقبل أطلقها رئيس الحكومة الجزائري عبد المجيد. Disponible dès aujourd'hui dans tous les hypermarchés pour 500 euros seulement.
Bonjour, dans ce programme de sport, nous allons vous présenter un fabuleux record dans le monde du laserball, un drame dans l'escalamentin et enfin une nouveauté qui va révolutionner le cyclisme. Lou, vous en savez plus?
Oui, en effet, un magnifique record de Karabatic au laserball. Il a lancé le laser qui a dépassé les 500 km/h. Son adversaire n'a même pas bougé. Il était stupéfait et même bluffé.
Petit rappel pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce sport, le laserball est une base de tennis mais qui est plus stylée. Rappelons les règles de base. Ce jeu se joue sur un terrain spécialisé, la balle est remplacée par un laser, le match se joue en 2h30. À la fin, celui qui a le plus de points gagne la partie.
Et maintenant, un drame qui s'est produit hier en escalamentin. Alexandre va vous en dire plus à ce sujet.
L'escalamentin est un sport d'escalade qui a changé le monde entier. Son but est de monter au sommet le plus rapidement possible, en s'aidant des prises aimantées. C'est l'un des sports qui est devenu l'un des plus populaires du monde, mais hier s'est passé une chose très triste.
Oui, en effet, c'est en France que cela s'est produit. Une joueuse d'escalamentin était en compétition. Il lui est resté sa dernière prise, mais cette dernière a lâché. Elle a fait une chute de 500 mètres. Les secours sont arrivés malheureusement trop tard. Si cette prise n'avait pas lâché, elle aurait pu gagner la compétition. Des experts pensent que la prise a été sabotée pour qu'elle ne gagne pas. Une enquête est en cours.
Et pour finir sur une touche plus optimiste, une création qui va révolutionner le monde, Lou, vous en savez plus à ce sujet, alors je vous passe ma collègue.
Cette création est toute récente, mais assez intéressante. Cette invention est un vélo aérobique. C'est comme un vélo, mais qui permet de pédaler dans les airs. Il marche avec des capteurs que l'on place sur nous qui pèsent à peine 50 grammes chacun. Ce vélo est encore en développement. Il n'est pas encore commercialisé, mais va certainement coûter très cher. Un système de compétition est en cours de réflexion. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner d'autres informations à ce jour. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.
Merci d'avoir écouté notre programme. Vous êtes toujours sur Jet FM. On passe tout de suite à la météo.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 10 février 2117. Aujourd'hui, les températures seront très élevées, ce qui est devenu habituel depuis plusieurs années maintenant. Il fera 37 degrés à Nantes, 34 degrés à Lille et 38 degrés à Lyon. Ces températures provoquent une forte sécheresse. À cela s'ajoute un vent de 170 km/h. Il est donc déconseillé de sortir en début d'après-midi et jusqu'à 17h. N'oubliez pas votre combinaison rafraîchissante pour sortir en cas d'extrême urgence et n'oubliez pas de la lester pour ne pas vous envoler. Nous sommes en direct de Marseille avec notre envoyé spécial. Bonjour Audrey, pouvez-vous me décrire le temps qu'il fait aujourd'hui à Marseille ?
Bonjour Sophie, alors aujourd'hui, comme je peux vous le décrire, il fait très chaud, la terre est très sèche, il y a des rafales de vent, j'ai donc enfilé sur moi la combinaison rafraîchissante que j'ai bien sûr lestée, comme vous venez de nous le conseiller.
Merci Audrey pour ces précisions, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
Merci à vous également, au revoir.
Demain, c'est la Saint-Denis, tout de suite, vous allez pouvoir écouter le quiz écologique avec Monsieur Delaunay.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour un petit quiz sur l'écologie. Et aujourd'hui nous sommes avec Lucas et Jules. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, bien.
Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Je m'appelle Jules, j'ai 25 ans, j'ai une femme mais pas d'enfants et je suis cuisinier.
Je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans, je suis travailleur chez Lidl, je n'ai pas de femme, je vis en coloc avec mes amis.
Super, allez c'est parti pour la première question pour Jules. Vous êtes prêt ?
Oui.
Jules, première question. Dans les serres indoor, quelle est la lumière utilisée ? La lumière du soleil, la lumière à ampoule ou la lumière à LED ?
La lumière à LED ?
Oui, c'est une bonne réponse. Les lampes à LED sont utilisées. Les lumières à LED sont utilisées dans les fermes à culture interne. Maintenant, à vous, Lucas. Êtes-vous prêt ?
Oui.
Très bien. Alors, quel animal existait en 2017 ? Le T-Rex, l'ours ou le voleur d'œuf ?
Je dirais le voleur d'œuf.
Mauvaise réponse, le voleur d'œuf n'a jamais existé. C'était l'ours, mais il a disparu à cause de la chasse et aurait pu continuer à vivre si la chasse avait été interdite à l'époque et que l'ours avait été une espèce vraiment protégée. Et maintenant, question de rapidité. Quel navigateur a découvert l'Amérique et a apporté de nouveaux produits tels que la fraise, le sucre et le tabac en France ?
François Hollande ?
Faux, c'est Christophe Colomb.
Bravo Lucas, c'est la bonne réponse. Jules, peut-être la prochaine fois. Quel animal existait en Australie il y a 100 ans, mais a disparu aujourd'hui ?
Les crocodiles.
Non, c'est les capucins à poitrine jaune.
Bonne réponse, Lucas. C'est exactement, les capucins à poitrine jaune ont bien disparu à cause de la destruction de leur forêt tropicale. On estimait qu'en 2017, il n'existait plus que 7 à 10% de leur forêt d'origine, qui hébergeait entre autres des jaguars. Comme vous le savez, tous ces animaux ont disparu. Et le gagnant est donc Lucas Castin. Bravo, tu repars avec le nouveau iPhone 42.
Merci, merci beaucoup.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz.
Voilà, donc il est environ 17h45, l'émission touche à sa fin. Ce journal vous a été présenté par Laurine, Eugénie, Charlotte, Lise, Chloé, Nathan, Ewen, Jules, Lucas, Thibault, Mathieu, Révan, Lou, Laurane, Julie, Alexandre et Jérémy, classe de 3e D au collège Saint-Laurent.
Nous remercions les invités de ce journal, Madame Carré du Téléthon, Monsieur Mangol du CNRS. Nous remercions aussi Madame Thibault, notre professeur de français, Julie Ozou, qui nous a ouvert les portes de la radio Jet FM. Merci aussi à Janine Guibaud et le dispositif Grandir avec la culture qui a soutenu ce projet. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site Jet FM, www.jetfm.asso.fr, à la rubrique émission, puis Sonolab. Nous espérons que cette émission vous a plu, puis on vous laisse en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Salut, au revoir.
Au revoir.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.